Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue sur CNews. Cet après-midi, le début de 90 minutes info dans quelques instants. Juste après, le rappel des titres, Somaïa Labidi, bonjour.
Bruxelles demande 50 milliards d'euros aux États membres pour aider l'Ukraine. Nous proposons une réserve financière pour les 4 prochaines années de 50 milliards d'euros. Cela inclut à la fois des prêts et des subventions, a déclaré Ursula von der Leyen lors d'un point presse. Cette réserve permettra de donner une perspective aux Ukrainiens et devrait également inciter d'autres donateurs à s'engager, a poursuivi la responsable allemande. Cette situation inquiétante à présent, alors que 4 immeubles de la rue Saint-Maur, situés dans le 10e et le 11e arrondissement à Paris, menacent de s'effondrer. Les habitants ont 48 heures pour évacuer les lieux et trouver une solution pour se reloger. Des habitants qui ne comprennent pas pourquoi les travaux prévus n'ont pas été entrepris à temps. Le commerce qui se trouvait au rez-de-chaussée serait en grande partie responsable de cette situation. Et puis les taxis volants seront au rendez-vous des JO 2024. C'est ce qu'a assuré leur promoteur, alors que ces appareils novateurs ne sont pas encore autorisés à transporter des voyageurs. On sera au rendez-vous, on est en ligne avec l'objectif du service commercial à Paris en 2024, a affirmé le directeur général exécutif du groupe ADP lors d'une conférence de presse au salon aéronautique du Bourget.
Merci beaucoup et à tout à l'heure. À la une, cet après-midi, l'émoi et la colère. Aussi à Bordeaux, après l'agression subie par une grand-mère et sa petite-fille, l'individu interpellé a un casier judiciaire chargé.
C'est un individu qui est très, très défavorablement connu de nos services, qui a des dizaines d'antécédents.
Et ces agressions-là, il faut y mettre fin. Et pour cela, nous, on les interpelle, les procédures sont montées. Et on attend que la justice fasse aussi son travail et puisse prendre des peines exemplaires contre ce genre de personnes.
La rencontre Macron-Mélenchon, c'est cet après-midi. Est-ce le signe d'un réchauffement réel avec l'Italie? Analyse à suivre. Et puis à Loris, c'est dans le Vaucluse, 23 conseillers municipaux démissionnent pour protester contre l'agression d'un agent de voirie. Mais on se rendra compte que le malaise est sans doute bien plus profond.
Stop, stop, stop. Voilà. Regardons-nous, respirons un coup et qu'est-ce qu'on montre aux générations futures? On se déshumanise, on se désocialise, on devient pire que des sauvages si on ne se regarde pas. Voilà, il faut remettre de l'humanité, de l'amour fraternel et c'est pour ça que nous travaillons ici.
Et pour m'accompagner cet après-midi, j'accueille 5 personnes aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Alexis Izard, je rappelle que vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Jean Messia, bonjour, vous dirigez maintenant l'Institut Vivre Français. Merci d'avoir répondu présent également. Bonjour Laura Lebas.
Bonjour.
Psychologue, influenceuse. On verra aussi que votre aide sera précieuse pour comprendre ce qui se passe pour cette famille qui a subi cette agression à Bordeaux. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Buisson du service police-justice et Gauthier Lebray. Hello, également aujourd'hui pour la politique. Nous avons tous été évidemment très choqués par la violence de cette agression commise par un individu contre une grand-mère et sa petite-fille. Ça s'est passé en plein Bordeaux. Je crois qu'on a tous vu les images d'ores et déjà. Mais on en sait plus désormais sur celui qui s'est livré à cela, qui s'en est pris à cette famille. Regardez le tout mis en image.
Il n'aura fallu qu'un seul coup d'œil des policiers sur cette vidéo pour identifier l'individu. Il est aux alentours de 17h30 hier soir lorsque cet homme déjà connu de la police repère cette grand-mère et sa petite-fille qui sortent de chez elle. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée de l'immeuble et les attrape violemment. L'agresseur, récidiviste, a été très rapidement interpellé. Il est âgé de 29 ans et est sans domicile fixe. Son casier judiciaire fait mention d'une quinzaine de condamnations.
Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en auteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître formellement.
Les réactions politiques ne se sont pas faites attendre, mais le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, refuse de commenter.
Je n'entends pas commenter
des réactions qui non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique.
L'agresseur a été placé en garde à vue. Les victimes, elles, souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.
Bonjour à vous, Régine Delfour. Vous êtes sur place à Bordeaux cet après-midi. Évidemment, c'est l'émoi qui prédomine dans cette grande ville française. Et la famille qui dit « nous ne voulons pas non plus de récupération politique ».
Oui, absolument, Nelly. Ici, c'est l'émoi qui caractérise aujourd'hui Bordeaux, puisque tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde a pu voir cette vidéo, la violence de l'agression sur une femme de 73 ans et sa petite fille de 7 ans. On les voit projetées au sol et ça, c'est incompréhensible, c'est intolérable. Ensuite, la colère, puisque l'individu était connu des services de police. Et ici, nous sommes sur le cours de la Martinique qui fait partie, en fait, du quartier des Chartrons. C'est un quartier plutôt bourgeois, comme vous pouvez le voir sur ces images de Jules Bedeau, vous pouvez le voir sur ces façades d'immeubles. Ce n'est pas du tout un quartier où la délinquance et la violence est très présente, voire omniprésente, même si, pas très loin, il y a ce quartier du Grand Parc. Et vous l'avez dit également, cette famille qui déplore la récupération politique, puisqu'elle cherche avant tout à préserver cette grand-mère et cette petite fille de 7 ans.
Merci beaucoup et donc merci à Jules Bedeau qui vous accompagne pour les images. Pas de récupération politique, néanmoins cette histoire elle est dans la bouche d'à peu près tous les politiques qu'on a pu croiser à l'Assemblée notamment, puisque aujourd'hui vous le savez c'est jour de questions au gouvernement en séance. Ainsi Marine Le Pen, c'était il y a quelques minutes.
Au-delà de cette agression, nous sommes confrontés non pas à un fait divers mais à un fait de société. Et si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien. Or, je n'entends pas servir à rien, j'entends servir à quelque chose. Et donc notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour que des cas comme ça soient le plus rares possible.
Sandra Buisson, donc, on l'a appris, j'imagine, tôt ce matin, cet homme, il a eu 15 condamnations. Vous allez peut-être nous rappeler pour quel motif.
Oui, 15 condamnations pour principalement du contentieux routier et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Hier, juste après l'agression, des contrôles ont été effectués. Son taux d'alcoolémie n'était pas positif. Il n'était pas sous l'emprise de l'alcool. En revanche, on n'a pas encore les résultats sur le dépistage de stupéfiants. Cet homme, c'est un Français de presque 30 ans. Il est né en juillet 93 à Bordeaux. Il est sans domicile fixe et les policiers l'ont reconnu très vite hier sur les images parce qu'ils l'ont déjà vu régulièrement dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Alors, en garde à vue, cet homme a nié être l'auteur de cette agression. Le parquet indique qu'il est actuellement sous tutelle. Et lui, cet individu, dit qu'il a un suivi psychiatrique et qu'il a un traitement qu'il ne prend plus, qu'il serait en rupture de traitement. C'est ce que vont vérifier les enquêteurs. Et donc, effectivement, ce passif judiciaire, même si les infractions ne sont pas des infractions qui donnent des condamnations pénales très fortes.
Alors, justement, est-ce qu'on sait si parmi ces 15 condamnations, il y en a eu qui lui ont valu de la prison, parce qu'on dit souvent,
on a posé
voilà,
la question au service du parquet de Bordeaux qui n'est pas encore revenu vers nous.
On
se demandait effectivement quelles avaient été les peines de ces prononcées à l'occasion de ces 15 condamnations.
Réaction Alexis Isard, peut-être sur le volet politique, vous avez peut-être envie aussi de vous exprimer, mais surtout sur quand même ce fait divers qui, selon Marine Le Pen, n'est plus un fait divers mais un fait de société. Est-ce qu'il faut le voir comme ça au sens large aujourd'hui?
C'est vrai qu'outre les récupérations politiques, il est difficile de ne pas réagir sur un événement pareil, imagé de la sorte, qui est barbare. Quand on voit la personne agressée, une personne âgée et une enfant de cette sorte, il est difficile de ne pas réagir. Maintenant, ce que je vois quand même, la réaction qui est la plus importante dans cette affaire, c'est celle de la police, qui agit extrêmement vite. Donc là, on le voit, on a affaire à quelqu'un qui a une quinzaine de faits écrits visiblement déjà. Donc je ne sais pas de quelle nature sont ces faits-là. Mais ce qui est important, c'est que la police a été extrêmement rapide pour le retrouver. Il faut maintenant que la justice, fasse son travail de manière rapide également. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, du côté législatif, c'est-à-dire de mettre les moyens sur la justice pour qu'elle puisse agir plus rapidement, sur la police pour qu'elle puisse être présente. Moi, je tiendrai à rappeler quand même qu'on a face à un vol aggravé avec une agression sur mineur. Cette personne-là, elle peut risquer jusqu'à 10 ans de prison. Eh ben, j'espère qu'elle va les prendre.
Jean Messia, que vous inspire cette histoire ? La violence nous a tous frappés. Effectivement, on peut souligner aussi la lâcheté d'un individu adulte avec la force physique que ça suppose de s'en prendre à une grand-mère et à sa petite-fille. On rappelle, il est français, né à Bordeaux. On en sait beaucoup sur sa vie.
D'une part, je ne comprends pas ce que signifie la récupération en l'espèce. De quoi donc rêvent ceux qui intentent des procès en récupération à tort et à travers ? Ils aimeraient que tout le monde se la ferme dès lors que la réalité contrevient au logiciel idéologique ou à un bilan calamiteux en termes de sécurité. Quand le maire de Bordeaux dit « il ne faut pas récupérer », on le comprend. Vu son peu d'empressement à agir sur la sécurité, sur l'insécurité explosive de sa ville, on comprend qu'il veut taire et faire taire la réalité qui envahit...
C'est ce qu'il entend par récupération. Il le fait sur le plan... il dit récupération sur le plan des amalgames qui peuvent être faits avec l'immigration, notamment.
Il n'y a pas le maire, il y a la famille.
Il n'y a pas le seul.
Oui, mais je crois que beaucoup de gens dans ce pays souffrent en réalité de dysphorie chromatique. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur ou des origines de l'agresseur, on peut récupérer ou pas. En fonction de l'origine des victimes, on peut récupérer ou pas. On se souvient que lorsqu'il y a eu ce drame affreux en Méditerranée, où il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes noyées, la récupération a été faite à la seconde où on a appris ce drame. Tous les journaux gaucho-progressistes, tous les médias gaucho-progressistes se sont emparés de ce fait affreux, divers, de cette tragédie, pour dire « nous les avons laissés mourir, nous sommes responsables de ce qui arrive ». Là, il n'y avait pas eu de procès en récupération. En revanche, dès lors que l'agression, en tout cas la réalité, percute un logiciel idéologique qui voudrait en l'occurrence et en l'espèce que l'immigration soit toujours et partout une chance pour la France, soit toujours et partout une richesse pour la France, ben là en l'occurrence ça n'est pas une richesse, c'est une délinquance et une criminalité. Alors là c'est interdit d'en parler, tir de barrage.
On a un peu creusé, Jean, ses deux parents sont français.
Mais aujourd'hui, vous savez, tout le monde est français. Je vous l'apprends pas. Il y a eu une folle politique.
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Il y a eu une folle politique. Dernières années, il y a eu une folle politique de naturalisation qui a accordé la nationalité française à des gens qui n'ont rien à voir avec la France.
Est-ce que cette personne vit à la française et pense à la française et se comporte à la française?
En tout cas, c'est un criminel et un délinquant. Il faut le condamner comme tel.
Est-ce que le débat ne porte pas plutôt sur la réponse pénale aujourd'hui?
Et la réponse pénale. Alors, j'entendais Monsieur le député nous expliquait qu'il souhaitait qu'effectivement la justice le condamne à la plus forte peine. C'est ce que je souhaite aussi, mais je crains que nos vœux mutuels ne soient que des vœux pieux, parce que vous connaissez la justice, surtout par rapport à ce profil d'individu. On va faire le jugement de la société, on va juger que cette personne a été discriminée dans son enfance et il va repartir libre, ou en tout cas, peut-être avec un rappel à la loi, ou peut-être avec une peine symbolique.
Gauthier Le Bret, juste pour qu'on fasse le point, parce que vous avez tout épluché depuis hier, ça commence hier déjà. Est-ce qu'il y a eu récupération politique, oui ou non ?
Ça peut vous déplaire, Jean, mais il est français, né de parents français, il est né à Bordeaux. Et vous dites tout le monde est français. Non, tout le monde n'est pas français. D'ailleurs, on a eu des débats, que ce soit pour la petite Lola ou pour Annecy, où c'était deux personnes qui n'étaient pas françaises. Donc là, il se trouve qu'il est français.
C'est pareil, on a eu les mêmes procès en récupération.
Oui, on a eu les mêmes procès en récupération, mais vous dites tout le monde est français. Bah non, tout le monde n'est pas
français. Non, mais les médias considèrent qu'à partir du moment où on a la nationalité française, tout le monde est français. Je récuse catégoriquement cette vision des choses.
En l'occurrence, il est né de parents français et il est français. Si on parle de récupération, c'est vrai que c'est le procès qu'on fait à chaque fois, mais ce qui est intéressant, c'est de la manière dont certains en parlent. C'est vrai que l'immigration a été mise tout de suite sur le devant de la table. Éric Zemmour, Marine Le Pen, il y a encore quelques instants à l'Assemblée nationale, salle des quatre colonnes. Alors elle dit que ça ne s'applique pas à ce cas-là en particulier, mais elle fait quand même le lien entre immigration et insécurité. Il n'est pas question ici d'immigration, si. Né français, de parents français, encore une fois. Je suis désolé, Jean Messia, ça ne vous plaît pas, ça ne rentre peut-être pas dans votre logiciel, mais là, en l'occurrence, il est né français.
Et moi, je suis français d'origine immigrée. La personne est d'origine immigrée.
On ne connaît pas l'individu. Voilà. Peut-être que c'est un SDF dont les parents sont parfaitement intégrés. Et là, ça casse un peu le raisonnement.
Oui, mais ce n'est pas le problème. Évidemment, d'origine immigrée.
Ensuite, évidemment, ça met le gouvernement très mal à l'aise. On a vu Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, qu'on a connu plus volubile, faire un point presse tout à l'heure, parce que, évidemment, les chiffres de l'insécurité ne sont pas bons. Donc là, ça montre à quel point l'insécurité règne presque partout en France, même dans les quartiers chics de Bordeaux. Donc évidemment, c'est une image désastreuse pour le gouvernement. Ça met en difficulté, là pour le coup, je vais rejoindre Jean Messia, évidemment, la mairie, le maire écolo, parce qu'il y a en plus ce procès qui est fait aux mairies écolo en disant là où vous avez un maire écolo, vous avez l'insécurité qui grandit dans la ville. Donc effectivement, tout le monde est mis un petit peu en difficulté avec cette histoire. On accuse de récupération politique les partis de la droite Non seulement on les accuse de récupération politique, mais la famille. Ouais. C'est pas pareil quand c'est entre politiques qu'on s'accuse de récupération politique que quand c'est la famille, évidemment, qui fait une déclaration pour demander d'arrêter.
C'est pas la famille qui le fait non plus.
C'est l'avocat de la famille.
Ouais.
Bon, non, mais j'imagine bien que l'avocat de la famille, elle parle pas sans l'autorisation de la famille.
C'est pas la seule boulette politique, on va y revenir dans un instant, mais j'aimerais, puisque ce type a dit qu'il prenait pas ou qu'il avait interrompu son traitement psychiatrique, est-ce que ça peut avoir un lien de cause à effet?
Alors. Déjà, beaucoup de personnes qui ont des traitements psychiatriques vont avoir tendance à prendre uniquement les médicaments où ils vont se sentir un peu shootés, qu'ils vont aimer. Donc ça, c'est une tendance. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, concernant les drogues, alors comme vous l'avez dit, comme vous l'avez rappelé, je suis aussi influenceuse et beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de drogues qui passent en dessous des radars aujourd'hui. Et ça, c'est important de le signaler, puisque moi, quand je vois cette violence, il est évident que ce n'est pas une violence qui est naturelle.
Elle a pris quelque chose, quoi.
En tout cas, pour être sous taser,
non, ça, et avoir, voilà,
au premier coup d'œil, en tout cas, ça ressemble à ça, et ça passe en dessous des radars. Là où aussi, je voudrais quand même souligner, Alexis, et merci, parce que finalement, vous avez rappelé, vous êtes un politique, vous avez quand même rappelé qu'il risque 10 ans de prison. Et je pense que ça aussi, il faut le dire. Moi, maintenant, le message que je fais passer, c'est que cette violence, elle est inacceptable, et pour la famille, et pour la petite, que derrière, il y a des vrais traumas, et c'est ça qu'il faut entendre.
Oui, c'est ça, comment on se remet, parce qu'elle a quel âge? 7, 8 ans, cet enfant?
Mais vous n'avez pas vu sur la vidéo.
Comment se remettre ça?
Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire chez cette petite fille, c'est qu'elle va courir vers sa grand-mère. Si on voit bien les images, elle va aller sauver sa grand-mère. Donc, il y a quelque chose de très.
Déjà, elle arrive à échapper.
Elle arrive à échapper. C'est assez. On sent que l'amour qu'elle a pour sa grand-mère va la menace dépasser. Donc, je trouve que déjà, c'est très courageux. Et en plus de ça, on se remet jamais réellement. On vit avec nos traumatismes. Et là où, effectivement, elle se remettra peut-être plus facilement, c'est si cette fois, après 15 plaintes, on arrive enfin à ce qu'il soit condamné, ça n'aura pas servi à rien.
Alors, je vous disais...
Il n'y a pas eu 15 plaintes. Il a été condamné 15 fois.
Et il est ressorti à chaque fois.
On ne sait pas. Elle attend la confirmation.
La justice l'a condamné.
Pour savoir s'il a effectué des peines éventuelles. Ouais. Quand je vous parlais politique et que je vous disais qu'il n'y avait pas qu'à droite qu'il y avait une tentative de récupération politique...
Ah, et Sacha Houllier qui a fait le coup de rappel de la journée. Oui.
On l'écoute.
Et l'aile gauche de la majorité, en fait, on est plus à droite qu'Éric Zemmour, on l'a appris aujourd'hui.
Merci de le préciser, en effet. Ancien Strauss-Kahnien.
C'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi immigration, pour expulser les délinquants. Je crois que ce monsieur avait un casier judiciaire fourni. Et donc j'invite tous ceux qui font obstacle aujourd'hui à ce qu'on puisse examiner une loi immigration, à lever leurs obstacles, à lever finalement le cinéma politique autour de ce texte, puisque évidemment, pour la double peine, pour les expulsions, pour les levées des réserves d'ordre public, c'est-à-dire que les excuses qui permettent de rester sur le territoire, eh bien on a besoin d'un texte. Et que les obstacles qui sont faits aujourd'hui nous empêchent d'adopter la loi immigration que le ministre de l'Intérieur et moi-même voulons examiner le plus tôt possible.
Il parle d'une loi immigration qui urge. Mais terrible amalgame, ça n'a rien à voir là.
C'est très dangereux de réagir quand on n'a pas tous les éléments du
dossier. Là, il ne savait pas, visiblement. Enfin.
En se précipitant de la sorte, effectivement. Je rappelle que Sacha Houllier, donc, il est tenant de l'aile gauche de la majorité. En plus, il a beaucoup d'ambition. Il dit Gérald Darmanin et moi, quasiment en se mettant sur le même plan que le ministre de l'Intérieur, nous voulons une loi immigration. Et c'est le petit caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin depuis le début, puisqu'il veut plutôt gauchiser le texte quand Gérald Darmanin a envie de le droitiser pour aller chercher les voix des Républicains. Bon, bah là, il n'est plus du tout tenant de l'aile gauche, puisqu'il dit il nous faut cette loi pour expulser les délinquants. Mais comment voulez-vous expulser un Français né de parents français?
Mais là, il ne savait pas. Donc ça veut dire qu'il y avait un stéréotype dans sa tête.
Mais non, mais c'est la dangerosité de réagir trop vite sans connaître le dossier.
Faut le dire. On le dit calmement, c'est une boulette.
Sur la forme, tout simplement, c'est vrai qu'en politique, on a tendance à vouloir nous faire surréagir très très rapidement. Et là, très certainement.
Les médias nous font réagir très rapidement sur des affaires.
Non, mais arrêtez, avec Twitter et tout. On tweet avant de dégainer, quoi.
En l'occurrence, Sacha Houllier a effectivement parlé de l'immigration. Pourquoi il a parlé de cette loi immigration? C'est parce que Sacha Houllier, il faut le rappeler, il est président de la commission des lois. Et donc, il travaille actuellement sur cette loi immigration. Donc, forcément, quand on l'a interrogé là-dessus, il a cru et il a su devoir.
Merci d'essayer de le défendre, mais il a juste fait une corrélation qui n'aurait pas lieu.
Mais tout à fait, tout à fait. En l'occurrence, il n'y avait rien à voir entre ces deux sujets.
Mais vous avez bien tenté, c'est bien. Vous êtes loyal à votre formation.
Je dis la vérité, je vous explique le déroulé.
Jean Messia, puis Laura Lebas.
Au-delà de ça, le fait déjà qu'il parle de la loi immigration par rapport à ça, il fait lui-même le lien direct entre immigration et délinquance et criminalité.
Ça, c'est pas pour vous déplaire, mais bon.
Disons que voilà, et donc il l'a fait, alors que bon, il n'est pas connu pour être quelqu'un de droite et encore moins d'extrême droite. Mais je voulais vous dire également que la récupération, ça pouvait être aussi une récupération par le silence. C'est-à-dire que quand on assiste à ce genre de choses et qu'on ne pipe mot sur cette réalité-là, là où d'autres réalités, au contraire, on s'efforce de les faire mousser.
Là, c'est aussi une forme
de la France insoumise, de LV, etc. Voilà,
c'est vrai que les réactions à gauche, on n'en a pas vu beaucoup. Il y a eu la réaction évidemment du maire principal concerné, qui est une réaction d'un maire.
Non, mais le maire a réagi en disant « je condamne la récupération oui. ». Il n'a pas réagi sur le fait lui-même en disant que c'était scandaleux.
Si, il a dit aussi que c'était scandaleux. Arrêtez, Jean-Messia, évidemment qu'il a dit que c'était scandaleux. Évidemment qu'il a condamné l'acte.
Il a même condamné l'acte, mais très rapidement, il a passé beaucoup plus de temps à instruire des procès en récupération aux autres qu'à lui.
Merci.
Et puis, alors, le silence, en général, est aussi une récupération.
Allez, Laura Lebar, le silence, c'est une récupération des 3 heures. Alors, vous n'avez pas trop dans les 3 minutes.
Silence, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire qu'on en fait une histoire d'immigration. Là où vous l'avez stipulé tout à l'heure, il a déjà été condamné pour stupéfiant au volant. C'est quelqu'un... C'est dans en cas de...
D'un côté pour contentieux routier, ouais. De l'autre côté pour infraction à la législation sur les
stupéfiants. Et il va voir un psychiatre qui lui donne un traitement, donc qui est aussi une drogue. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas parler d'une loi contre les stupéfiants pour les personnes qui prennent des traitements, des désintox, de justement ce que la justice peut faire, plutôt que de tout ramener toujours à l'immigration? Et finalement, il y a quand même beaucoup d'affaires où on parle de drogue, et il y a peut-être aussi un sujet là-dessus.
Bon, Sandra, on en saura plus d'ici la fin de la journée, quand même.
Oui, puisqu'on va savoir si sa garde à vue est prolongée, levée. Saura plus. Normalement, le parquet doit revenir vers les médias.
Alors, pourquoi je voulais garder cette petite séquence? Parce qu'on parle des responsabilités des uns et des autres. On parle de la mairie de Bordeaux, qui peut-être n'a pas pris la mesure de l'état de la délinquance dans cette ville, en tout cas de l'insécurité qui y règne. Écoutez cette séquence qu'on a extraite d'un conseil municipal, d'une conseillère en charge, précisément, de la sécurité. Moi, comme ça, je l'ai entendu une fois, ça m'a paru d'emblée assez lunaire.
Au niveau de la sécurité, on y travaille, particulièrement à La Benoge, avec Fanny, tout ça. On essaye de voir avec les jeunes du quartier de La Benoge. Après, il n'y a pas que La Benoge. Hein. On a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale. On y travaille, on fait des actions. Mais bien sûr, il faudrait peut-être un gendarme à chaque coin de rue ou pour pouvoir. Ça n'empêche pas que l'agression. Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser. Ça nous arrive à tout le monde. Mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient. Hein, la ville de Bordeaux est conscient de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement, le maire est particulièrement attentif à ça. Mais c'est pas de suite qu'on va le résoudre, quoi. C'est assez compliqué quand même. Hein.
Mais franchement, Alexis, Isard, vous arrivez à la croire, elle est un peu dilettante dans sa manière de dire. Et pire encore, elle dit, enfin, moi ça m'a un peu choqué.
Vous voulez que je la croie de quoi?
Non mais sur l'action entreprise. Propose, hein. Voilà.
J'ai l'impression d'entendre ces élus de Paris qui nous disent que finalement les rats, il va falloir cohabiter avec eux parce qu'ils sont pas si méchants et que s'ils nous mordent, finalement on a de quoi se soigner après.
C'est lunaire. Pire encore, elle a renoncé, elle dit ça nous arrive à tous. Enfin c'est grave de dire ça, ça nous arrive à tous, oui, d'être agressé. Mais quel est ce genre de constat? Dans quelle société on renonce par fatalisme?
J'étais personnellement élu local avant et je trouve ça surprenant qu'une élue locale se permette de dire ce genre de choses devant ses habitants qui subissent l'insécurité. Maintenant, très sincèrement, le gouvernement n'attend pas que essaye de travailler avec les élus locaux, mais n'a pas attendu cette adjointe pour déployer des forces policières sur le terrain et le fait.
Le problème non plus. Hein.
Non, mais pourtant,
on n'a pas résolu le problème non plus avec toute l'insécurité. Hein.
Et pourtant,
on a un peu l'impression qu'elle dit ce qui lui passe par la tête, Laura Lebar, à ce moment-là.
Alors, en fait, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que quelqu'un qui gouverne, il représente la loi. Et on ne peut pas mettre une agression, la rendre normative. Moi, c'est ce qui me dérange un peu dans ces propos, c'est que finalement, c'est normatif, c'est normal, ça arrive à tout le monde, et ça, c'est pas audible.
Jean Messia, en guise de conclusion, vraiment, vous avez 20 secondes, Jean.
Quelle mollesse, quelle impuissance, quelle impotence. Donc non seulement, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'entend dans votre reportage, mais quand on entend la vidéo, il y a des grondements dans la salle.
Oui, on l'entend un petit
parce peu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en gros, vous faites agresser, bon, bah, c'est un peu la normalité. Moi aussi, je me fais agresser. Et finalement, vivre dans une société ensauvagée, insécure, où vous avez peur de vous balader parce que vous pouvez vous faire violenter à tous les coins de rue, c'est normal.
C'est intégré, c'est quand même... quoi.
Non, mais à la limite, qu'un citoyen lambda pense ça, c'est déjà, mon Dieu, anormal, mais que quelqu'un qui représente la République à son niveau, qui a été élu, pense ça, mais c'est vraiment le symbole de l'impotence absolue.
Allez, On va s'interrompre, on parlera de Gérald Darmanin. Déplacement en Tunisie avec l'octroi de 26 millions d'euros pour encourager les Tunisiens à garder les candidats au voyage de leur côté de la Méditerranée. A tout à l'heure. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez en cours de route dans cette émission, on reprend le débat juste après. Le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Gérald Darmanin annonce la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Le ministre de l'Intérieur précise qu'il présentera le décret demain en Conseil des ministres. Je vous propose de l'écouter. Il répondait à une question du député Renaissance Thomas Rudigoz qui dénonçait les violences survenues entre forces de l'ordre et militants écologistes lors de la manifestation le week-end dernier contre la ligne Lyon-Turin.
Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre.
Les Soulèvements de la Terre qui réagissent à cette annonce du ministre de l'Intérieur. Le collectif dénonce une dissolution très politique et particulièrement inquiétante. Essayer de faire taire les Soulèvements de la Terre est une vaine tentative de casser le thermomètre plutôt que de s'inquiéter de la température, a estimé le mouvement écologiste dans un communiqué. Dans l'actualité également, les réactions se multiplient après l'agression hier à Bordeaux d'une femme de 73 ans et de sa petite fille. Elles ont été extirpés de force de leur domicile, puis projetés à terre par un SDF. Placé en garde à vue, l'homme d'une trentaine d'années serait connu des services de police pour une vingtaine de faits. La famille des victimes se dit dans un communiqué indigné par la récupération politique. Écoutez Marine Le Pen qui estime au contraire que les politiques doivent apporter des réponses. On l'écoute.
Au-delà de cette agression, nous sommes confrontés non pas à un fait divers mais à un fait de société. Et si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien. Or, je n'entends pas servir à rien, j'entends servir à quelque chose. Et donc notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour que des cas comme ça soient le plus rares possible.
Giorgia Meloni attendue à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit cet après-midi la chef du gouvernement italien, Thomas Bonnet. Vous êtes sur place devant l'Elysée avec Léo Marcheguet. Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement tendu entre la France et l'Italie.
Oui, première visite à Paris pour Giorgia Meloni après des mois de turbulences entre les diplomaties françaises et italiennes. Il faut dire que l'histoire avait particulièrement mal commencé lorsque, au mois de novembre dernier, la présidente du Conseil italien avait refusé d'accueillir le navire Ocean Viking et les 230 migrants à son bord. Gérald Darmanin avait alors réagi et dénoncé un choix incompréhensible et un comportement inacceptable de la part de l'Italie. Et puis plus récemment, au mois de mai dernier, le ministre français de l'Intérieur avait récidivé. Giorgia Meloni, je cite, est incapable de régler les problèmes migratoires dans son pays. Une sortie médiatique qui avait provoqué l'annulation de la visite à Paris du chef de la diplomatie italienne qui avait même exigé des excuses. Alors entre-temps, évidemment, les deux diplomaties ont maintenu les liens. Macron et Meloni se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment en marge de sommets internationaux. Mais on n'est pas réellement sur une relation qu'on pourrait qualifier de chaleureuse entre les deux dirigeants. En témoignent d'ailleurs les conditions de cette visite. Visite prévue en dernière minute et qui se déroule en plein après-midi. Alors cet après-midi, justement, les deux dirigeants devraient surtout parler d'Europe, de l'OTAN et de leur soutien à l'Ukraine, qui est le point de convergence majeur entre les deux diplomaties. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si hier, Emmanuel Macron a annoncé la réception par Kiev d'un système de défense de fabrication franco-italienne.
Merci beaucoup Thomas Bonnet et merci à Léo Marcheguet qui vous accompagne. Alain Delon a d'autres passions que le cinéma. L'acteur français a décidé de partager son amour pour l'art à travers une exposition itinérante à travers le monde. Jusqu'à jeudi, c'est à Paris que les amoureux d'art et de l'artiste ont la joie d'apprécier les œuvres glanées tout au long de sa vie, avec également une vente aux enchères de ses plus belles œuvres. C'est un sujet de Maxime Lavandier.
Tableau, peinture, sculpture, cette exposition semble pour le moins banale, et pourtant elle appartient à un seul homme.
On a la chance d'avoir la collection d'Alain Delon, qui est une merveilleuse collection,
qui est une collection qui retrace quasiment 5 siècles d'histoire de l'art.
81 œuvres exposées avec entre autres des tableaux de Delacroix, Millet ou encore les peintures de Raoul Dufy, pièce maîtresse de sa collection.
Un tableau dans lequel il aimait beaucoup se perdre. En fait, on a vraiment l'impression que c'est une fenêtre sur la baie de Sainte-Adresse. Et puis après, pour lui et pour moi, on trouvait aussi que c'était presque une scène de théâtre.
Art et cinéma s'entremêlent dans cette exposition réunie au fil de 60 années de passion. Comme cette sculpture qui n'est pas sans rappeler le film Le Guépard. Il a fait la renommée de l'acteur.
Je pense que c'était un des préférés d'Alain Delon parce que ça avait fait la couverture du catalogue d'exposition. En 88, il avait montré ses bronzes de Bugatti dans une galerie. Ce côté fauve, intuitif, fascinant, un peu indomptable, bah c'est quand même pas mal Alain Delon.
Une collection estimée entre 4 et 5 millions d'euros. Les passionnés pourront l'acquérir lors d'une vente aux enchères.
C'est presque une adoption. Comme on peut parfois, malheureusement, on a des animaux à la SPA et on espère qu'une belle famille les adoptera, on espère en tout cas que ces œuvres vont se retrouver dans des familles qui les aimeront autant que notre père les a aimées.
Débutée à Londres, Hong Kong puis Genève, l'exposition se tient à Paris du 17 au 22 juin.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue bien sûr avec vous, Nelly Denac.
Merci beaucoup, cher Michael. Vous parliez de Gérald Darmanin. On va évidemment évoquer ce déplacement à Tunis dans un instant. Mais puisque vous nous le disiez, on va développer cette information, Gauthier. Demain, en Conseil des ministres, il actera donc le fait que Soulèvement de la Terre, qui a encore sévi ce week-end, sera dissoute.
Oui, il était temps, puisque effectivement cette dissolution, cette promesse de dissolution a été faite il y a déjà plusieurs semaines, après évidemment ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où ces groupuscules d'extrême-gauche s'en sont pris aux forces de l'ordre sur ces histoires de bassines à Sainte-Soline, venant des quatre coins d'Europe. Alors là, Gérald Darmanin, on l'a entendu à l'Assemblée nationale, a remercié les autorités italiennes qui ont pu bloquer ces mêmes militants qui voulaient venir pour manifester contre la présence du TGV, la construction du TGV entre Lyon et Turin. Mais effectivement, depuis Sainte-Soline, cette promesse de dissolution avait été faite et elle était tardive puisque les soulèvements de la Terre étaient encore là ce week-end pour manifester contre ce TGV en s'en prenant une nouvelle fois aux forces de l'ordre. Il faut dire aussi qu'à chaque fois, vous avez des représentants d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise. Ce week-end, c'était Mathilde Panot, c'était Éric Piolle la fois dernière à Sainte-Soline, c'était Marine Tondelier, c'était Clémence Guettet, députée la France Insoumise. Donc voilà, en Conseil des ministres, demain sera actée la dissolution des soulèvements de la Terre. Gérald Darmanin a expliqué que ça a pris du temps puisqu'il fallait un dossier solide pour que le Conseil d'État ne casse pas la dissolution des soulèvements de la Terre. On imagine qu'il y aura un recours puisque, évidemment, les soulèvements de la Terre ne vont pas se laisser dissoudre comme cela. On imagine donc qu'il y aura un recours. Il ne faudra pas que le Conseil d'État vienne casser cette décision. Évidemment, sinon, ça mettrait en grande difficulté le ministre de l'Intérieur. Un peu comme, si vous voulez, quand il essaye d'interdire des manifestations de l'ultra-droite et qu'après, eh bien, ses arrêtés préfectoraux sont cassés par la justice.
Ils viennent d'ailleurs de dénoncer une dissolution très politique. C'est leur première réaction. Jean Messia, il était temps, selon vous ?
Il était temps. Enfin, je ne mettrais pas sur le même pied les interdictions préfectorales de manifester ou de tenir des colloques, comme ça avait été le cas, par exemple, pour l'Action française, où là, effectivement, il n'y avait aucune raison de le faire. C'était une atteinte grave et délibérée au droit de réunion.
C'est ce que j'ai fait, mais les faits, même pour le ministre de l'Intérieur, casse ces interdictions.
Je mettrais sur le même plan, et encore que, parce qu'on n'a jamais eu le même degré de violence de part et d'autre, Soulèvement de la Terre et Génération identitaire, par exemple. Parce que là, si vous voulez, si on passe notre temps à juste titre à dire que le gouvernement est hémiplégique lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'extrême gauche et aux violences d'extrême gauche, et quand il le fait, on a au nom de l'état de droit tout un tas de juridictions et le pouvoir des juges qui cassent les décisions dès lors qu'il s'agit de la gauche et de l'extrême gauche. Par contre, on s'aperçoit quand même que quand il s'agit de groupuscules un peu plus éloignés idéologiquement que l'idéologie qui est omniprésente dans les juridictions, là, bizarrement, le droit devient malléable, devient souple. Et effectivement, beaucoup de fois, le gouvernement a été retoqué. Donc j'espère sincèrement que cette fois-ci, l'état de droit à travers ces institutions va donner raison à Gérald Darmanin, parce qu'il n'y a aucune raison que des groupuscules aussi violents restent impunis et continuent à exister, tout simplement.
Alexisa, il y a quand même cette petite musique aussi qu'on entend depuis quelques jours, consistant à dire, bon, vous pourrez dissoudre tant que vous voulez Soulèvement de la Terre, il y en aura d'autres qui renaîtront derrière, et je veux dire par là que le militantisme ne s'arrêtera pas aux limites de Soulèvement de la Terre.
Non, mais le rôle du gouvernement n'est pas d'arrêter le militantisme, il est simplement de prévenir des actions qui serait illégal. Donc c'est d'aller manifester lorsque la préfecture a refusé la manifestation, et c'est surtout d'aller manifester avec des armes. Avec des armes et d'en découdre avec la police. C'est ça que le gouvernement veut limiter, et c'est pas des manifestants, c'est tout à fait sain.
Donc vous pensez sincèrement que leurs sympathisants ou soutiens ne trouveront pas une autre formule pour aller créer des ZAD et occuper des espaces ?
Ils la trouveront très certainement, et dès lors que leur organisation les pousseront à commettre des faits qui sont hors de la loi, dans ce cas-là, il y aura de nouveau des dissolutions et des arrestations.
Alors, restons justement avec Gérald Darmanin, qui est en déplacement en Tunisie. Il a confirmé l'octroi d'une enveloppe de près de 26 millions d'euros à ce pays afin qu'elle lutte contre l'immigration illégale. Voyons ce qui est en jeu, voyons ce qui est sur la table avec Vincent Fahandège et on en parle.
En déplacement à Tunis, Gérald Darmanin a annoncé le don de près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour l'aider à lutter contre l'immigration illégale.
Cet appui devrait contribuer à acquérir les équipements nécessaires et organiser les formations utiles, notamment des policiers et des gardes frontières tunisiens, pour contenir le flux irrégulier de migrants et favoriser leur retour dans de bonnes conditions. Nous savons que la Tunisie est la première victime de cette immigration irrégulière et nous voulons lui assurer de toute notre solidarité.
Plus tôt, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec le président tunisien. Kais Saied a prévenu que son pays ne deviendrait pas le garde-frontière de l'Europe.
La Tunisie ne sera la gardienne que de ses propres frontières. Nous n'accepterons pas non plus que la Tunisie devienne un pays de réinstallation pour les migrants.
En répondant au président tunisien, Gérald Darmanin s'est voulu rassurant. Il a tout de même rappelé que pour lutter contre l'immigration illégale en Europe, il fallait aider les pays de départ comme la Tunisie.
La Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe. Mais avec la Tunisie et l'Europe, nous devons travailler avec les pays de départ pour éviter que cette situation ne continue.
L'enveloppe prévue par la France s'ajoute aux 105 millions d'euros annoncés la semaine dernière de la part de la Commission européenne.
Alors je suis sûre que vous commenterez les uns et les autres cette petite phrase, la Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe dans un instant, mais écoutez aussi l'analyse que tire de ce déplacement, de cette visite, l'essayiste tunisien Atem Nafti. Il est aussi membre de l'Observatoire tunisien du populisme.
Les Européens sont fait signifier une fin de non-recevoir. Le président s'est même amusé à dire que l'aide qui lui est proposée pour acheter notamment des vedettes pour intercepter les migrants aurait pu être utilisée pour améliorer la situation des migrants et les fixer pour pas qu'ils soient tentés par la route de l'exil. Donc c'est un faux calcul que font les Européens, un petit peu par opportunisme. Le soutien à la dérive autoritaire en Tunisie en contrepartie d'une meilleure surveillance des frontières ou d'une externalisation des frontières européennes.
Jean Messia, s'agit-il d'un camouflet pour les autorités françaises ? Et d'une manière générale, est-ce que cet argent vous paraît mal employé, mal utilisé ?
C'est-à-dire que si on ne tient pas compte de l'aide européenne, et d'ailleurs dans une moindre mesure même si on en tient compte, mais disons si on parle simplement des 25,8 millions d'euros promis par Gérald Darmanin, que Gérald Darmanin apporte dans sa valise au cours de ce voyage, on ne peut s'étonner, et je pense que les Tunisiens s'étonnent, du décalage entre l'ampleur du phénomène contre lequel on prétend lutter, c'est-à-dire ces arrivées massives de migrants en Tunisie pour prendre la mer, et la modestie de la somme allouée, 25,8 millions d'euros. Je rappelle que l'organisation du grand débat national, dont plus personne d'ailleurs n'entend parler, est de 18 millions. Donc vous comprenez que les enjeux sont quand même un peu décalés.
Et par rapport à l'enveloppe européenne au sens large est de 100 millions, donc c'est à peine 400 millions.
Tout à fait. La deuxième chose, c'est que le président tunisien, si vous voulez, avait déjà dénoncé dans des propos qui avaient largement réagi en Europe, un plan criminel, disait-il, visant à changer le visage de la Tunisie. Ce sont ses propres mots. Donc il voyait dans l'immigration une forme de complot visant à grand remplacer en quelque sorte les Tunisiens. Donc si ce président, c'est son ADN, il fait deux choses. Un, il arrête les migrants qui viennent dans son pays. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les migrants qui sont déjà présents en Tunisie, soit il les renvoie chez eux, soit il les laisse partir vers l'Europe. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles la Tunisie, et d'ailleurs ça se retrouve dans les déclarations même du président tunisien, qui dit qu'il ne va pas être le garde-frontière de l'Europe. La solution, elle n'est pas là en fait. La solution, c'est d'arrêter coûte que coûte, ouais, de faire un barrage coûte que coûte à toutes les embarcations qui viennent depuis le sud de la Méditerranée, dans le cadre d'un droit de la mer qui est largement détourné,
au profit d'une véritable entreprise financière de relocalisation de tout un continent
d'accord,
en Europe.
Donc vous êtes d'accord sur le principe d'acheter des vedettes pour pouvoir patrouiller en mer et gérer pourquoi, adéquatement...
Mais pourquoi l'Europe n'a pas de vedettes? Il faut, si vous voulez, compte tenu de l'ampleur du problème, il faut envoyer les marines nationales pour arrêter les carrément. Embarcations. Bah, bien sûr.
Oui, mais on dit toujours, vous endiguez le phénomène bien au sud et puis vous pouvez leur permettre de revenir à leur port de départ.
Est-ce que vous vous rendez compte que les mafias de passeurs ont du matériel qui souvent surclasse ceux des gardes frontières.
Ça, c'est un autre problème, c'est vrai.
Donc à partir de là, il faut quand même réagir et puis surtout agir sur les associations qui sont les complices actifs ou passifs des mafias de passeurs.
Alors, voilà. Là, Jean Messia, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous voulez arrêter les bateaux quand ils arrivent chez nous. Là, le but est de les arrêter quand ils vont partir.
Non,
et c'est ça
exactement.
Le sens de ces mesures-là qui sont faites.
Oui, mais c'est ça.
Les marines nationales des pays européens concernés sont plus efficaces, seraient plus efficaces que...
Mais la réponse du ministre Darmanin quand il va en Italie puis qu'il va en Tunisie, je trouve que c'est la bonne mesure du problème migratoire et de la manière dont on a du problème qu'on a pour gérer le flux migratoire dans tout le continent européen. C'est un problème qui est européen et auquel il faut répondre de manière européenne.
Et rien ne marche.
Et pour le coup,
le
ministre se déplace pour essayer de résoudre ce problème-là.
Mais vous savez très bien qu'au sein de l'Union européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Il est toujours question de relocaliser les migrants, mais jamais question d'arrêter leur arrivée.
C'est votre fonds de commerce.
Mais non, c'est pas
une réalité.
Pour qu'il y ait un fonds de commerce, il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires. Or, vous voyez bien,
publiez-le.
Et le chiffre d'affaires, c'est le problème, justement, que vous ne voulez pas voir.
Gauthier Lebray, si on prend ça d'un point de vue un peu plus politique, si on s'extrait de l'enjeu immédiat. En disant ça, quand même, Gérald Darmanin, et plus largement Emmanuel Macron, on donne des gages à l'électorat, on fait les choses, on s'attelle à l'immigration, précisément avant la loi immigration. Il faut quand même le voir aussi à l'aune de cette loi immigration qui se profile.
Oui, même si Gérald Darmanin a multiplié les déplacements avec les pays concernés, bien avant, évidemment, qu'on parle de cette loi.
Enfin là,
qui doit arriver un jour ou l'autre, on ne l'a toujours pas, on sait que Gérald Darmanin veut un deal avec les Républicains. C'est compliqué à cause de Sacha Houlier, qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission, le tenant de l'aile gauche, le président de la commission des lois. On sait que Elisabeth Borne ne veut pas passer par 49-3 sur la loi immigration. Donc pour le moment, elle n'est pas encore sur la table. Elle n'a pas fini d'être reportée. Finalement, il y a eu une petite accélération parce que les Républicains avaient coupé l'herbe sous le pied du gouvernement en présentant leurs grandes mesures. Mais là, ce qui s'est passé en Tunisie, Gérald Darmanin a dit on ne demande pas aux Tunisiens d'être nos gardes frontières. C'est très clairement ce qu'il est devenu demander aux Tunisiens en leur promettant donc 26 millions avec 105 millions la semaine d'avant annoncé par Ursula von der Leyen en présence de Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, qui avait fait le déplacement la semaine dernière en Tunisie et qui sera donc tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Macron. Et il y a une autre question. En fait, Gérald Darmanin demande un peu aux Tunisiens de faire ce que nous faisons pour les Anglais. C'est-à-dire que même si on est beaucoup mieux rémunéré que ce qu'on va donner aux Tunisiens, c'est un peu le rôle qu'on joue à Calais.
Absolument.
Mais l'autre question qui va se poser, c'est, là ça n'a pas été évoqué par Gérald Darmanin, certes, là, ces mesures-là, c'est pour empêcher les départs, mais il y a aussi la question de ceux qui sont déjà là. Et la question des expulsions, et la question des laissez-passer consulaires qui ne sont pas délivrés par la Tunisie. Je rappelle qu'on avait baissé de 30% les visas accordés à la Tunisie,
on
de 50% à l'Algérie.
On ne sait pas si ça a été évoqué.
On ne sait pas si ça a été évoqué. Mais ça, c'est un vrai sujet, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis dans les colonnes de Valeurs Actuelles d'appliquer 100% des obligations de quitter le territoire français. Depuis, Éric Dupond-Moretti nous a dit que ce n'était pas possible, donc il a dit en gros que le président de la République avait quasiment menti. Donc c'est aussi le vrai sujet. Comment vous expulsez ceux qui sont déjà sur le sol français alors que vous n'avez pas de laisser passer consulaire et qu'on a arrêté de baisser le nombre de visas délivrés aux Tunisiens, aux Marocains et aux Algériens.
En une phrase, quand même. Ne pas tenir de promesses,
Qui sont justement faits en sorte de pouvoir tenir ces engagements de
100% des OQTF
pour essayer d'y aller au maximum. Ouais. Mais simplement, ce que je voulais. Le commentaire que je voulais faire par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'une partie de cet argent est surtout fait pas seulement pour bloquer les départs, mais aussi pour lutter contre les trafics qui sont faits, le trafic d'humains, pour envoyer des migrants sur...
Non mais 26 millions, ça vous paraît être une enveloppe conséquente? Il disait que c'était peau de chagrin. Pour vous, c'est bien?
Pour certains, ce sera trop. Pour d'autres, ce sera pas assez.
Il nous reste quelques minutes pour évoquer aussi une autre rencontre. Vous allez voir que tout est lié, tout s'imbrique. Emmanuel Macron qui reçoit donc cet après-midi pour la première fois à Paris Giorgia Meloni. Il s'agit de confirmer, bien sûr, la normalisation des relations entre la France et l'Italie après toute une série de crises autour du dossier migratoire. Les enjeux de la visite, Natalia Mendoza, notre correspondante.
Cette première visite en France de Giorgia Meloni depuis son arrivée à la tête de l'exécutif italien suscite un grand intérêt ici en Italie. La chef du gouvernement italien cherche du soutien à la candidature de la ville de Rome pour accueillir l'exposition universelle de 2030. Il s'agit également de remettre sur les rails une relation bilatérale traversée par des tensions depuis notamment de l'arrivée à la tête de l'exécutif italien de la coalition de droite menée par le parti souverainiste italien Fratelli d'Italia. Le dernier épisode, au mois de mai, quand le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait jugé le gouvernement Meloni, je cite, « incapable de gérer la crise migratoire », des propos qui ont suscité l'indignation ici en Italie. Depuis, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont apaisé la situation lors d'un tête-à-tête en marge du G7 au Japon. Et maintenant, avec cette rencontre d'aujourd'hui, il s'agira pour les deux leaders de consolider la coopération bilatérale, partager une vision commune des dossiers internationaux, le soutien à l'Ukraine, à l'Afrique et le besoin de solidarité européenne dans la gestion des flux migratoires.
On va vous rafraîchir la mémoire et vous allez voir qu'on revient de loin quand même. Parce que souvenez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines, disons, Gérald Darmanin s'en était pris ainsi à Giorgia Meloni en disant qu'elle était incapable de régler les problèmes migratoires pour lesquels elle avait été élue. Donc ça, c'était le 4 mai, à peine un mois et demi, disons. Effectivement, les relations étaient glaciales. On rappelle le contexte. Au moment de la disparition de Silvio Berlusconi, on n'a envoyé aucun dignitaire de Paris. C'est l'ambassadeur qui a fait le job. Hein.
Et puis, il y a eu l'Ocean Viking.
En plus.
Tout a commencé avec... évidemment, l'épisode de l'Ocean Viking, où Giorgia Meloni avait déjà accueilli 3 bateaux. D'abord, elle avait seulement voulu accueillir les enfants, les femmes et les malades. Puis finalement, elle avait accueilli l'entièreté de l'équipage. Et puis, elle avait refusé donc d'accueillir l'Ocean Viking. Donc effectivement, les relations sont pour le moins tendues. Gérald Darmanin, quelque part, il est quasiment en plus sorti de la course à Matignon avec cette affaire, en déclenchant une crise diplomatique avec l'Italie. Après, est-ce que sur le fond, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur est faux, ça fait débat. C'est-à-dire qu'effectivement, Giorgia Meloni n'arrive pas à endiguer l'immigration, pas plus que Rishi Sunak au Royaume-Uni, malgré le Brexit, malgré que le droit européen ne prime plus sur le droit britannique. Il n'y a jamais eu autant d'entrées, 600 000 cette année. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est le communiqué de l'Élysée. On nous dit on va parler de l'OTAN, du Conseil européen, de l'Ukraine. On nous dit absolument pas qu'on va parler d'immigration. Évidemment, c'est pour aussi arrêter cette tension avec l'Italie, du moins essayer de baisser en pression. C'est une visite surprise, on ne s'y attendait pas forcément. C'est une visite importante parce qu'effectivement, il y a tout ce qui se passe à la frontière, à Menton, entre la France et l'Italie, puisque l'Italie est évidemment une porte d'entrée de l'immigration.
Et justement, pour alimenter un peu le débat entre vous, mais on n'aura pas énormément de temps, je propose d'écouter ce que disait Jordan Bardella sur les ondes d'Europe 1 ce matin sur le pacte asile-immigration.
L'Italie a un problème majeur, c'est que l'Italie n'a plus d'argent et l'Italie n'a plus d'enfants. Voilà. Et
que donc l'Italie est aujourd'hui
confrontée à un afflux majeur. Moi, je pense que Madame Meloni doit évidemment être soutenue dans la politique qu'elle conduit et que les migrants aujourd'hui qui arrivent sur les côtes italiennes ne doivent pas être relocalisés dans les villages et les campagnes françaises, mais dans leur pays de départ. Moi, je suis contre ce pacte asile et immigration. Je le combats tous les jours avec les eurodéputés du Rassemblement national
au Parlement européen. On peut préciser de quoi il s'agit pour nos
auditeurs. Pour une raison très simple, j'y viens, c'est que ce pacte impose la relocalisation des migrants, la répartition des migrants dans tous les pays de l'Union européenne.
Pour la France.
Si vous ne prenez pas et vous n'acceptez pas cette part de migrants relocalisables dans les villages et les villes françaises, vous aurez des sanctions financières.
Oui, mais, 20 000 fois 4 000, ça fait combien ?
8 millions.
Ouais, c'est bravo. Non mais bon, vous êtes d'accord avec lui sur le pacte ?
Ah bah
c'est la fausse bonne idée.
C'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que pour l'Union européenne, la réalité, ce n'est pas l'afflux migratoire. L'afflux migratoire est comme une donnée, une hypothèse avec laquelle on travaille. Ce n'est pas quelque chose que l'on combat. Ce n'est pas quelque chose contre laquelle on mène une politique. En revanche, la seule politique migratoire de l'Union européenne, c'est la ventilation des migrants qui arrivent sur le sol européen entre les pays avec les sanctions qui viennent d'être rappelées. Je regrette évidemment que l'action de Mme Meloni ne soit pas conforme à ce qu'elle avait annoncé. En gros, Mme Meloni fait du Sarkozy, c'est-à-dire le syndrome Karcher-Kouchner. Voilà.
Est-ce qu'elle n'est pas juste confrontée à la réalité et du pouvoir ?
Et donc Gérald Darmanin, si vous voulez, commence à avoir des propos avenants vis-à-vis de Mme Meloni, prouve
que précisément, Mme Meloni est exactement dans le logiciel de son matamor et mentor Nicolas Sarkozy, dont il avait fait plusieurs campagnes dans les années 2000. La question aujourd'hui centrale, c'est qu'effectivement, l'Italie a besoin de l'argent du plan de relance européen. L'Europe exerce une pression absolument invraisemblable parce que le secteur bancaire italien est en mauvaise passe.
Et 20 000 fois 4 000, ça fait 80 millions.
Pardon ?
Et 20 000 fois 4 000, ça fait 80 millions.
Et voilà, plus, alors ça...
Oh là là, l'économiste, on vous a même pas repris avant. L'économiste...
Le problème, il est là, c'est que c'est un problème idéologique. Et bien sûr que d'ailleurs, vous avez remarqué que les médias changent totalement de discours vis-à-vis de Mme Meloni. On avait le droit à crypto-fasciste, mussolinienne,
post-fasciste,
extrême droite.
Elle devient fréquentable.
Elle devient tout ça a été gommé. Je ne le lis plus dans les journaux. C'est marrant.
Alexis, un mot. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment qu'on agit un peu a posteriori pour endiguer le problème et mettre une sorte de sparadrap et qu'il n'y a pas d'anticipation concertée au niveau européen. C'est-à-dire qu'on pêche encore à trouver la ligne directrice de cette politique migratoire européenne.
Et c'est justement la raison pour laquelle le ministre Darmanin se déplace. Hein, vous mettez le doigt sur quelque chose. Et moi, quand j'entends M. Messia dire que finalement, qu'il retourne en Afrique, en fait, je l'avais déjà entendu quelque part, mais c'est ce que vous dites,
qu'il
rentre chez eux. Mais à la rigueur.
Jean Messia n'est pas
à la rigueur.
Je vous le dis. Voilà.
Un commentaire intéressant, c'est que à la rigueur, c'est possible quand c'est des migrants économiques qui viennent en Europe parce qu'on y vit mieux. Pourquoi pas ?
Mais ça l'est.
Mais qu'est-ce que vous allez faire ?
95%
la raison pour laquelle il faut qu'on prévoie à moyen et long terme une politique migratoire pour l'Europe, qu'est-ce que vous ferez quand ce seront, par exemple, des Ukrainiens qui arrivent parce que leur pays est en guerre ? Première solution, on la vit actuellement. Qu'est-ce que vous ferez quand ce seront des migrants climatiques qui ne pourront plus retourner chez eux ? C'est pour cette raison qu'il faut qu'on prévoie
une politique. En fait.
Mais non, mais c'est pour cette raison qu'il faut qu'on prévoie une politique migratoire européenne. Mais,
monsieur le député, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont candidates à venir s'installer en Europe ?
Mais les constats sont très simples à faire. C'est les solutions qui sont plus compliquées, monsieur Messia.
Qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous dites on fait une politique migratoire pour attirer les réfugiés climatiques, pour attirer
ceux qui se passent,
pour attirer ceux qui fuient la guerre, pour attirer ceux qui fuient la famine, on n'en sort plus.
Rendez-vous compte,
est-ce que vous avez vu à quoi ressemble la Porte de la Chapelle, à quoi ressemble Calais, à quoi ressemblent tous les bidonvilles
Monsieur
le député, est-ce que vous trouvez ça digne d'un pays comme la France, vous qui êtes un grand humaniste et vous avez raison de l'être, est-ce que vous trouvez que c'est humaniste d'accueillir des gens dans des cloaques et dans des égouts comme la France?
Pas du tout, et c'est pour cette raison qu'il faut une politique migratoire européenne.
Donc, quand on n'a pas les moyens d'accueillir dignement, eh bien, on n'accueille pas.
Merci.
Voilà la réponse.
Allez, on arrête deux secondes, on reviendra pour parler de Saint-Brévin. On est toujours sur la veine de l'accueil des migrants. Vous allez voir qu'il y a 4 plaintes déposées par celle qui succède au maire de Saint-Brévin, démissionnaire, parce qu'elle n'en peut plus des intimidations de ceux qui refusent le CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On verra qu'il y a d'autres contre-exemples, avec d'autres maires qui, eux, précisément, ne veulent pas de ces migrants dans des centres de rétention administrative. Et certains qui ont réussi à faire plier l'État. À tout de suite. De retour avec vous, avant de reprendre le débat avec nos invités pour la toute dernière partie de l'émission, rejoignons Somaïa Labidi pour un récap de l'actu de l'après-midi.
Vers une dissolution du collectif Soulèvement de la Terre, c'est l'annonce de Gérald Darmanin au sein de l'hémicycle cet après-midi, qui entend l'acter dès demain en Conseil des ministres. Pointé du doigt à plusieurs reprises pour les violences entourant leur manifestation, l'association dénonce, je cite, une dissolution très politique et inquiétante. 5 personnes, dont un Français, partis à bord d'un sous-marin pour découvrir l'épave du Titanic, sont portées disparues. Le sous-marin touristique utilisé pour l'excursion a disparu des radars depuis 2 jours. Les gardes-côtes américains et canadiens poursuivent les opérations de recherche. Mais les heures sont comptées car l'engin dispose de réserves d'oxygène limitées. Et puis une nouvelle pointe pour l'obélisque de la Concorde. Le célèbre monument est de nouveau coiffé d'une fine pointe qui vient achever sa restauration complète lancée l'année dernière. Une installation réalisée à l'aide d'une nacelle est faite en présence de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.
Merci beaucoup. Vous vous souvenez de Saint-Brévin, bien sûr, Saint-Brévin en Loire-Atlantique. On a beaucoup parlé il y a quelques semaines parce que son maire a démissionné. Il est passé devant une commission. Il s'est longuement expliqué, bien sûr, sur ce qui l'avait conduit à prendre cette décision assez catégorique. Eh bien, entre-temps, il a une remplaçante. Et la remplaçante du maire a déposé 4 plaintes, car les intimidations de ceux qui refusent toujours le centre d'accueil pour demandeurs d'asile continuent après quand même la démission de son prédécesseur. Regardez un peu la nature des plaintes que cette femme Dorothée Paco a déposées. Elle dit « Je ne suis pas sous protection, mais il y a une vigilance autour de mon domicile. Les gendarmes sont attentifs à toutes les plaintes que je dépose. J'en ai déposé 3. Je vais en déposer une 4e. Est-ce qu'on a peut-être une précision sur la nature des plaintes ?» Bon, enfin bref, elle continue à faire les frais de cette intimidation. Parlons aussi, parce que c'est un autre fait avéré, ces démissions, ces renoncements même liés à l'installation, parce qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a les CADA, il y a aussi les CRA, qu'on connaît peut-être un peu mieux, les centres de rétention administrative, et il y a aussi, je l'ai découvert ce matin, les CPAR, ce sont des centres de préparation au retour. Eh bien, de nombreux édiles se plaignent de découvrir à la dernière minute les projets qui ont été lancés par l'État et doivent ensuite en référer à leurs administrés, quitte à provoquer la colère ou la désapprobation. Un maire PS, tiens, celui qu'on voit apparaître ici, à Saint-Lys, c'est en Haute-Garonne, dit « Nous, on veut bien prendre les coups, mais pas sur les politiques nationales sur lesquelles nous n'avons pas la main. » Il aurait pu rajouter « tout en étant en première ligne ». Vous comprenez cette exaspération, Alexis Izard ?
Mais je la comprends tout à fait, mais c'est la même histoire que pour les prisons. Finalement, le centre de rétention administratif, pour le rappeler, c'est là où on met des personnes qui sont censées retourner chez eux après une peine ou des OQTF dont on parle, on va les mettre en centre de rétention administratif le temps de pouvoir les renvoyer chez eux. On en manque, c'est comme les places de prison. Du coup, on propose d'en construire. Et vous avez toujours les prisons qui viennent vous proposer de construire des places de prison. Ça paraît assez simple. Et finalement, là où ça devient compliqué, c'est que personne n'en veut chez soi. Et pour autant, il faut quand même les construire. Donc moi, je comprends que quand on arrive dans sa commune à devoir construire ce type de projet, bah, ça ne fait pas plaisir. Mais pour autant,
on le voit des élus de gauche. Hein,
pour autant,
des élus de gauche.
Eh bien, bien sûr.
Fausse bonne idée, cette dissémination voulue d'ailleurs par le président de la République en région des migrants.
Bah évidemment, c'est pas ce que souhaitent les Français. Les Français souhaitent un arrêt de l'immigration. Et au lieu de quoi, on leur propose au contraire d'en avoir là où il n'y en a pas. Puisque la ventilation va se faire selon une clé de répartition qui va en mettre plus là où il y en a moins et moins là où il y en a plus. Donc résultat des courses, on va avoir plus d'immigration sur le territoire national et en particulier sur les territoires où il n'en a pas ou peu. Donc c'est pas ce que souhaitent les Français. Les Français veulent un arrêt des flux migratoires. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant de Saint-Brévin, mais quelle conception a cette maire du dialogue et de l'apaisement d'une situation quand elle dit « je vais tout faire pour imposer le centre des migrants ». Elle sait très bien qu'il y a des oppositions. Où est l'apaisement ? Où est le dialogue ? Où est
Elle l'a dit comme ça ?
Dans son intention, elle l'a dit, oui, j'ai bien l'intention d'imposer le centre des migrants. Donc, ce qui est quand même assez incroyable, si vous voulez, moi je...
Jean Messia, si on peut vous répondre, parce que c'est une demande de l'État. Ce n'est pas d'imposer déjà un centre de demandeurs d'asile, il existe déjà. C'est de le déplacer à côté d'une école. Et c'est une demande de l'État imposée quasiment à la mairie. Et
d'accord.
Le maire de Saint-Brévin démissionnaire l'avait expliqué comme tel. Et les protestations, vous savez très bien qu'elles sont minimes dans la commune de Saint-Brévin et qu'elles sont extérieures à la ville et qu'elles ont été alimentées par des oppositions politiques. Vous en prenez à cette maire qu'on ait à déposer 4 plaintes, qui avait déjà des groupes d'ultra-droite qui craquaient des fumigènes à l'extérieur de sa mairie quand elle a pris ses fonctions. Il y a un maire qui était au bout du rouleau, qui a démissionné, qui a été auditionné pendant plusieurs heures, j'ai assisté à son audition au Sénat, qui a envoyé plusieurs courriers au préfet et au sous-préfet de Loire-Atlantique qui n'a été absolument pas soutenu et qui a eu sa maison et ses voitures brûlées. Donc il ne faut pas juste inverser.
Attendez,
les responsabilités.
Quand vous dites que l'opposition vient de l'extérieur, c'est marrant parce qu'à Calac, ceux qui étaient en faveur de l'installation des migrants à Calac venaient aussi de l'extérieur. Et à ce moment-là, personne n'en a parlé. C'est pas un argument parce que il arrive le contraire dans d'autres cas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je constate que les élus locaux sont très promptes à refuser des prisons, la construction de prisons. C'est ce que d'ailleurs nous dit Éric Dupond-Moretti en permanence.
C'est une demande de l'État.
Oui, mais quand l'État veut construire des prisons, qu'est-ce qu'il dit pour ne pas le faire ? Il dit, quand on veut en construire, les élus locaux ne sont pas d'accord. Donc
le
ça veut dire qu'à ce moment-là.
Le demandeur d'asile existe déjà.
Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'à ce moment-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, on prend en compte l'avis des élus locaux. On prend en compte l'avis des habitants.
L'élu local. Voilà. A convaincu ses habitants d'accepter le déménagement. Et c'est des gens extérieurs à la commune qui viennent protester.
Mais in fine, elle subit quand même une décision venant du pouvoir central.
Le pouvoir central, c'est imposer et maintenir des choses lorsque ça correspond à son idéologie. Typiquement, il sait maintenir des foyers d'accueil de migrants ou construire des centres de rétention administrative pour migrants quand ça l'arrange, mais quand ça ne l'arrange pas, par exemple en matière de politique pénale pour construire des places de prison supplémentaires, là, il excipe
du refus des maires et des élus locaux pour dire on fait rien. C'est quand même dingue.
Allez, on s'arrête deux secondes parce qu'on est un petit peu pris par le temps. On doit marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler des maires, mais dans un autre registre. Ces maires démissionnaires, certes, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Des incivilités de certains de leurs administrés. C'est ce qui est arrivé à Loris, c'est dans le Vaucluse. Jolie petite bourgade du Luberon, c'est magnifique comme région. Eh bien, ça ne se passe pas toujours très bien. À tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info, nous avons ouvert notre émission tout à l'heure sur ce qui s'est passé à Bordeaux, cette agression d'une grand-mère et de sa petite-fille. La garde à vue du suspect, dont on a beaucoup parlé tout au long de la journée, a été levée. On vient de l'apprendre, c'est une info CNews, Gauthier Lebray.
Oui, une information du service police-justice de CNews, de Sandra Buisson. Effectivement, la garde à vue du suspect de l'agression de Bordeaux a été levée pour qu'il soit hospitalisé sous contrainte en psychiatrie, donc dans les prochaines heures. Très certainement, ça va recentrer le débat sur l'état de la psychiatrie en France. On en a de nombreuses fois parlé à travers différents faits dans l'actualité. On sait très bien que c'est le parent pauvre et qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans la psychiatrie en France. Donc très certainement, ça va relancer le débat autour de cette agression à Bordeaux.
D'autant qu'on précise, lors de cette fameuse garde à vue, les infos qui nous étaient parvenues, c'est que l'individu se justifie en disant qu'il avait interrompu un traitement psychiatrique qu'il aurait pris. Donc ça tendrait à corroborer peut-être ça. On n'a toujours pas le résultat des analyses sur le plan des stupéfiants, hein, d'ailleurs.
Hein, exactement, il faut être très prudent, mais très certainement, la question de son suivi psychiatrique va être également posée. Est-ce qu'il y a eu des défaillances? Est-ce qu'il a été mal suivi? Est-ce qu'on aurait pu empêcher cette agression? Très vraisemblablement, c'est des questions qui vont être posées aussi politiquement pour, une nouvelle fois, on l'imagine, de la part des oppositions, notamment à droite, cibler évidemment le gouvernement qui est embarrassé hein, par cette affaire. On a vu Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, qu'on connaissait plus volubile, faire un point presse en début de journée. Évidemment, ça met le focus sur l'insécurité en France, qui est à peu près partout, même dans les quartiers chics désormais de Bordeaux, et ça met le gouvernement face à ses mauvais résultats en matière d'insécurité, comme pour les maires d'ailleurs Europe Écologie Les Verts, puisque Bordeaux est une ville écolo et qu'on met souvent le focus sur ces, ouais, sur ces villes tenues par des maires écolos où l'insécurité grandit.
Nul doute que ça va susciter bon nombre de réactions, à commencer par la vôtre, Jean Messia. Est-ce que là aussi, voilà, ça relance le débat sur la psychiatrie, et est-ce que pour vous, ça fausse d'une certaine manière le débat?
Ça relance le débat sur la psychiatrie sans doute, mais bon, la psychiatrie, c'est un point important puisque c'est le parent pauvre de la médecine et que nous vivons dans une société où effectivement, compte tenu voilà, des nouveaux malaises, des nouveaux mal-êtres, on a des gens qui effectivement sombrent dans une forme d'addiction, de dépendance, de dépression. Donc tout ça, voilà, ça fait partie de la politique de santé, on va dire. Mais ça ne saurait, si vous voulez, écarter l'analyse de la nécessaire politique sécuritaire et ferme, de fermeté à la fois sécuritaire sur la voie publique, mais ça, les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, et la fermeté également juridictionnelle et pénale des magistrats et de la justice. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bon, j'ajoute que dans les villes écologistes, évidemment, et d'ailleurs, ils font leur propre pub en disant que la sécurité ou l'insécurité ne les intéresse pas. Ils préfèrent financer des toilettes publiques inclusives dans les centres-villes plutôt que des policiers et des caméras et de la vidéosurveillance à laquelle ils s'opposent. Donc vous voyez, voilà, ils font des priorités sur des choses qui ne sont pas forcément la priorité de leurs administrés, et les domaines qu'ils délaissent, c'est-à-dire l'insécurité généralisée, ça leur explose à la figure.
Ce qui pose question quand même dans cette affaire, c'est qu'on sait maintenant, on connaît un peu le profil judiciaire, le passif judiciaire de cet homme, condamné à 15 reprises, est-ce qu'il y a eu une faille dans le sens où, si vraiment il était déjà sous le coup de problèmes psychiatriques, il aurait peut-être fallu prévoir autre chose que des sorties intempestives le concernant? Là aussi, le débat va être lancé de plus belle.
Non, c'est certain. Bon, on en parlait tout à l'heure, je vais éviter d'avoir des réactions à chaud sur des informations qu'on obtient au moment même sur ce plateau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le suivi de la psychiatrie est extrêmement important, et ce n'est pas le premier cas qu'on voit venir et sur lequel on est amené à faire des commentaires sur ces plateaux.
Enfin, 15 fois quand même, hein. Il en a vu des experts,
oui, bien sûr,
j'imagine.
Après, comme tout le monde autour de ce plateau, on ne sait pas exactement la raison pour laquelle il a été condamné à chaque fois, mais totalement en phase.
Il y a déjà des réactions diverses, variées? Non. Bon, on rappelle, c'est une info, c'est news que vous voyez apparaître. Il nous reste quelques minutes. Vous en reparlerez bien sûr dans Punchline avec Laurence et nos équipes du service police-justice. J'aimerais juste qu'on en vienne à ce que je vous disais tout à l'heure. Le maire de la commune de Lauris, dans le Vaucluse, et tous les membres de son groupe au conseil municipal, ça fait quand même 23 personnes sur 28, je crois, dans ce conseil municipal en particulier, ils ont présenté leur démission. Pourquoi ? Parce qu'un adjoint a été agressé par un administré, c'est important de le préciser, et le maire de la commune, d'environ 4000 habitants, dit maintenant « trop, c'est trop ». À un moment, il faut savoir dire « stop ». Stéphanie Rouquier a fait un reportage sur place.
À Lauris, dans le Vaucluse, le 13 juin dernier, cet élu à la voirie se rend chez un administré pour l'aider après un violent orage. Mais subitement, l'homme devient agressif.
La personne m'a demandé de faire le constat des eaux. Je lui ai dit que j'étais pas habilité. Et il m'a tout d'un brutalement, il m'a saisi par les vêtements, il m'a plaqué contre le mur. Donc mon ami s'est interposé pour le retenir, il voulait me frapper bien sûr. J'ai réussi difficilement à rentrer dans ma voiture. Et là, il m'a menacé en me disant qu'il allait me retrouver et me tuer, quoi.
L'élu a porté plainte. L'homme a rapidement été interpellé. Mais pour le maire de la commune, cette agression est intolérable. Avec 22 des 27 conseillers municipaux, ils viennent de présenter leur démission.
Stop, stop, stop. Voilà. Regardons-nous, respirons un coup et qu'est-ce qu'on montre aux générations futures ?
Les habitants approuvent leur démarche.
Je pense que c'est bien de marquer le coup, oui, absolument.
Je pense que les gens devraient un petit peu se calmer parce que on devient tous un peu trop agressifs et violents.
Les élus attendent désormais un rendez-vous avec la préfecture, mais ils assurent que cette démission est surtout un cri d'alarme. Ils ne comptent pas abandonner leurs administrés.
À nouveau ce maire, il est assez philosophe en fait, cet élu. Il explique ce qui a motivé évidemment la décision de démissionner en bloc, en collectif, et ce qu'il espère surtout pour la suite.
On s'est réuni toute l'équipe municipale et on s'est levé d'un seul homme pour dire non, stop, il faut qu'on fasse quelque chose, on va s'arrêter. Parce que Lauris, c'est un petit village serein, paisible, dans le respect de soi, des autres, de l'environnement. On ne peut pas accepter ça. C'est impossible. La semaine dernière, la directrice de l'école a aussi été insultée. Il faut qu'on montre un autre exemple à nos jeunes. On est tous papa, maman, papy, mamie. Qu'est-ce qu'on va laisser comme exemple à nos enfants ? Ce n'est pas les discours qui vont les éduquer, c'est l'exemple qu'on leur montre.
On parle beaucoup de décivilisation. Ça y participe, ça aussi ?
J'aime pas le terme de décivilisation parce que finalement c'est nous qui faisons cette civilisation.
Vous n'avez pas le terme utilisé par le président de la République.
C'est nous qui faisons cette civilisation et
c'est
moi je me sens pas décivilisé.
Emmanuel Macron.
Mais en tout cas,
Vous êtes député de la majorité et vous n'aimez pas le terme employé par le président de la République.
Peu importe, c'est des mots, on va parler du sujet parce qu'il est important. On a près de 4% des maires en France qui ont démissionné depuis juin 2020. Et c'est extrêmement important et c'est terrible parce qu'on a longtemps dit que le maire finalement, c'était un petit peu la pub qu'on en fait, le maire, c'est celui qui a porté de baf. Ben non, c'est fini ça. Il ne faut pas que le maire soit à portée de baf. On ne peut plus dire ça. Et très sincèrement, moi, je trouve ça très problématique parce que l'échelon local, le maire, c'est celui qui est le plus proche des habitants. C'est celui sur lequel on compte quand on fait des politiques nationales. C'est lui, finalement, qui impulse la politique au local. On a besoin de lui. Et quand on voit ce genre de situation, bah, on décourage les gens à s'engager pour leur commune et c'est terrible. Et on a besoin d'avoir des engagés sur le terrain.
Il risque de ne pas y avoir foule aux prochaines échéances municipales pour les petites communes qui ne sont pas protégées.
Il y a un maire sur deux qui ne sait pas s'il va se représenter à la prochaine élection municipale.
C'est vraiment très, très concernant quand même.
Entre la pénalisation de l'action du maire qui est rendu responsable de tout et n'importe quoi ces dernières années, sa responsabilité juridique est engagée sur pas mal de choses.
Vous rendiez responsable la maire de Saint-Brévin du déménagement du centre de demandeurs d'asile alors que c'était l'État.
Non, oui, pareil, oui, mais c'est elle qui gère ça sur le localement. Elle aurait pu s'y opposer, par exemple. Elle ne l'a pas fait. C'est pas la question. On a le droit. Dans une démocratie, si vous voulez, le désaccord n'est pas un crime. Il le devient quand...
Non, la menace, non, voilà, le fait de brûler une maison, des voitures...
Il le devient quand, effectivement, il n'y a plus de débat... et qu'on bascule dans la violence.
Elle a été menacée le jour où
voilà, mais ça c'est totalement condamnable. Et j'ai toujours condamné toutes les formes de violence d'où qu'elles viennent, que ce soit les violences auxquelles on a assisté à Brest à l'encontre d'Éric Zemmour, ou des violences même qui peuvent affecter la France insoumise ou n'importe quel élu ou n'importe quel responsable politique, je m'y oppose radicalement. Dans une démocratie moderne comme la France, on sait parler. Or, justement, la décivilisation dont parle le président, c'est qu'on est passé du stade où on n'arrive plus à dialoguer, à confronter, si vous voulez, l'épée verbale et à passer à l'épée physique. Et là, effectivement, on est en train de perdre en modernité, en civilisation.
Petite interruption, on se retrouve pour se dire au revoir.